You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Et c'était bien entendu Jean-Claude Duss dans Les Bronzés. Sur un malentendu, ça peut passer. C'est le titre de cette Europa Voice numéro 29 avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors sur un malentendu, ça peut passer. Est-ce que ça peut vraiment passer pour Boris Johnson? On parle bien entendu du Brexit et des développements cette semaine avec une nouvelle proposition de Boris Johnson, mais plutôt compliquée pour que l'Europe accepte bien tout ça.
Alors malheureusement Christophe, je pense que même sur un malentendu, ça a peu de chances de passer entre le nouveau plan proposé par Boris Johnson et l'Union Européenne. Alors pour nos auditeurs, il faut savoir que Boris Johnson est donc revenu ce mercredi 2 octobre avec un nouveau plan de sortie de l'Union Européenne et surtout une nouvelle alternative au sort de la frontière irlandaise et du fameux maintenant backstop, filet de sécurité.
Alors le problème était là, le problème est toujours là. Il y a même des gens un petit peu qui ont le sarcasme un peu fort qui disent que Boris Johnson, au lieu de revenir avec une frontière irlandaise, il revient avec deux frontières irlandaises. Expliquez-nous un petit peu tout ça et pourquoi ça bloque en fait.
Alors oui, alors en fait, Boris Johnson donc est revenu sur cette proposition de frontière irlandaise, ce backstop, avec deux nouveaux axes principaux. D'abord, la première chose, c'est que l'Irlande du Nord continue d'appartenir à la même zone douanière que la Grande-Bretagne. Ça, c'est la première chose. Et sur un autre aspect, c'est que l'Irlande du Nord conserve aussi la régulation propre à l'Union européenne pendant une période de transition de 2 ans. Alors, avant de rentrer dans de plus amples détails, on voit déjà que Boris Johnson, il vient avec un plan à Bruxelles, qui essaye de ménager la chèvre le chou, c'est-à-dire à la fois son électorat très pro-Brexit local et à la fois Bruxelles avec cette régulation européenne. Alors pourquoi il fait ça, Boris Johnson? D'abord, il fait ça parce que, on l'avait dit et redit dans les précédentes émissions d'Europa Voice, tout le monde veut éviter absolument d'avoir des contrôles douaniers, une frontière physique entre les deux Irlandes et de revenir au cercle de violence qu'on a connu de 68 à 98 entre les deux Irlandes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, c'est aussi éviter une sortie brutale via une solution trouvée notamment par la frontière irlandaise. En fait, ça lui permet d'utiliser cette sorte de période de transition pour ne pas aller vers le « do or die » d'une certaine façon.
Mais ça complique un peu les choses. En tout cas, ça ne les simplifie pas parce que lui, il dit qu'il y aura une frontière, mais qu'elle sera juste physique, mais il n'y aura pas de contrôle physique fait par les polices douanières de chaque côté. Donc on a tendance à dire à quoi ça sert une frontière comme ça. Et est-ce que l'Europe peut vraiment se satisfaire de ça?
Non, Christophe. L'Europe ne peut pas se satisfaire de ça, déjà pour la simple et bonne raison qu'en termes de négociation, il faut savoir qu'avant ce 2 octobre, avant cette nouvelle proposition de Boris Johnson, le Premier ministre conservateur, lui, a dit devant le Parti conservateur réunion en Congrès, en cas de rejet de plan, le Royaume-Uni sortirait de l'Union européenne le 31 octobre, quoi qu'il arrive. Donc si vous voulez, d'une certaine façon, l'Europe, c'est quoi sa position? C'est de se dire, en fait, on a quelqu'un qui vient pour négocier, mais il a déjà dit à ses fans, il a déjà dit à ses électeurs que quoi qu'il arrive, il sortira de l'Union européenne le 31 octobre. Donc en fait, si vous voulez, on est dans une négociation complètement biaisée et l'Union européenne voit bien que Boris Johnson essaie de faire le forcing. Donc c'est la première raison pour laquelle, j'allais dire sur la forme, ça ne peut pas satisfaire l'Union européenne. Et puis il y a plein de raisons pour lesquelles aussi ça ne satisfait pas l'Union européenne. En fait, dès mercredi soir, donc après l'annonce de ce nouveau plan par Boris Johnson, le député libéral Guy Verhofstadt est président du comité de pilotage pour le Brexit, a dit « Les propositions de dernière minute du gouvernement britannique dans leur forme actuelle ne constituent pas la base d'un accord. » Donc déjà, la négociation était très mal engagée. Et puis surtout, encore plus important que cela, le négociateur en chef chargé de la préparation et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni, Michel Barnier, lui voit même un piège dans cette proposition de Boris Johnson. C'est une confidence plus tellement confidente qu'il a faite à nos collègues confrère du Guardian. Il a dit, en fait, pour l'Union européenne, le problème, c'est qu'il n'y a aucune garantie que les contrôles soient suffisants pour que les produits qui entrent en Irlande, donc dans l'Union européenne, puisque l'Irlande, pour nous dire, donc, va rester dans l'Union européenne, via cette fois l'Irlande du Nord, puisqu'il n'y aura plus ou il y aura un contrôle allégé. Donc, si vous voulez, il y a des produits hors Europe qui vont rentrer en Europe via cette non-frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande. Il n'y a aucune garantie que ces produits respectent les normes européennes. Donc c'est un gouffre, en tout cas c'est une hypothèse que Michel Barnier et l'Europe ne prend très au sérieux et en considération, cette hypothèse d'avoir des produits qui ne respecteraient pas les normes européennes via cette espèce d'imbroglio autour de la frontière nord-irlandaise.
Et l'Europe ne peut pas se permettre d'avoir cette espèce de cheval de Troie dans sa zone. Ce qui est intéressant dans tout ça aussi, c'est qu'en fait, et je vais faire l'avocat du diable, mais est-ce que Boris Johnson ne serait pas un peu en train de jouer, un, la montre, et deux, jouer, essayer de sauver un peu la face à la Britannique, où il va nous dire, bon bah nous, au moins on a essayé d'amener quelque chose, vous n'avez rien amené de nouveau, voilà, nous on s'en va, terminé, point barre. Et mon point là-dessus, c'est qu'en fait, les DUP, donc le parti nord-irlandais, qui d'ailleurs, je vous rappelle, maintient la majorité au Parlement, donc qui a beaucoup à dire auprès de Boris Johnson, eux, ils attaquent directement le Premier ministre irlandais, donc de la République d'Irlande, en disant, bah, c'est vous qui n'acceptez pas ce qu'on veut faire.
Alors, je crois qu'il faut préciser pour nos auditeurs que déjà, on prend aussi cette frontière nord-irlandaise comme un prétexte aussi pour, de manière plus globale, dire dans les futurs jours qu'on est arrivé ou qu'on n'est pas arrivé à trouver un accord de mise en œuvre du Brexit. Puisqu'il faut rappeler, hein, il n'y a pas que ce problème de la frontière néerlandaise. Après, je crois qu'il faut aussi rappeler quelque chose de très important, c'est que pour le coup, et je crois à la bonne volonté à la fois des négociateurs de l'Union européenne et à la fois de Boris Johnson, de mettre en œuvre le Brexit. Ça, c'est évident que, quelle que soit la modalité de mise en œuvre du Brexit, tout le monde maintenant veut mettre en œuvre ce Brexit. Préserver, ça du côté de Boris Johnson, l'unité du Royaume-Uni, ça je crois que c'est aussi un élément important, et préserver aussi les accords de paix en Irlande, entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc je crois que sur ces trois éléments, pour le coup, on a une feuille de route qui est à peu près semblable. Maintenant, encore une fois, c'est sur les modalités de mise en œuvre de ce Brexit, et clairement, de toute façon, il l'a dit devant les conservateurs réunis en Congrès, il sortira de l'Union européenne le 31 octobre. Donc Boris Johnson, en fait, en proposant ce plan à l'Union européenne, il prend aussi le soin de ménager à la fois la chèvre et le chou pour une sortie effective du Royaume-Uni, de l'Union européenne le 31 octobre. Mais peut-être plus de détails, Christophe, pour nos auditeurs sur ce plan, ce nouveau plan proposé, ces deux frontières, hein, vous l'avez très justement dit, que Boris Johnson essaye de réinstituer, ou en tout cas de trouver comme pierre angulaire de cette nouvelle solution de Brexit pour l'Union européenne. D'abord, il faut savoir que ce que ça veut dire, c'est que l'Irlande du Nord quittera l'Union douanière comme le Royaume-Uni. Ça, c'est une chose qui est acquise. Il n'y aura plus d'Union douanière entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni. Mais certaines règles douanières continueront de s'appliquer en matière de circulation des biens, notamment, y compris dans le secteur de l'agroalimentaire. Donc déjà, ça crée une zone d'incertitude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Avec des mots très simples pour nos auditeurs, ça veut dire que Boris Johnson en fait propose de mettre en place des zones de réglementation. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de frontières, on change un peu le wording, qui engloberait en fait toute l'Irlande avec l'accord du Parlement et de l'exécutif nord-irlandais. Et ça, c'est un vrai point de blocage, Christophe, parce que l'Union européenne ne veut pas non plus donner à l'Irlande du Nord le soin de mettre un droit de veto et de renégocier tous les 4 ans, puisque c'est ce que Boris Johnson prévoit dans son plan, de savoir s'ils veulent continuer ou pas d'appartenir à cette nouvelle zone de réglementation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y aura effectivement pas de collecte des taxes douanières entre les deux pays, mais un suivi des marchandises opéré grâce à une coopération étroite entre Royaume-Uni et Irlande avec des vérifications ponctuelles. Et ça, c'est un point que Michel Barnier a aussi soulevé. Il a dit, tout ça me paraît beaucoup trop nébuleux. Ce ne sont pas les mots du négociateur, mais en tout cas, on ne peut pas se permettre d'appliquer ces règles-là parce qu'on risquerait d'avoir des produits non homologués qui rentreraient dans l'Union européenne. La troisième chose, et je reviens dessus, c'est cette possibilité donnée aux Irlandais de décider en fait tous les 4 ans s'ils veulent se maintenir ou pas dans cette zone réglementaire. Et là, je dirais qu'en fait, c'est inenvisageable aussi pour l'Europe, parce qu'on a vu que rien que la négociation du Brexit, ça va mettre 4 ans là à arriver, alors qu'on était... Donc vous imaginez bien qu'on ne va pas relancer les dés et redonner de l'incertitude tous les 4 ans. Et enfin, dernier élément, et peut-être qu'on va pouvoir s'attarder un peu dessus, Christophe, c'est Boris Johnson demande aussi, il est exigeant envers l'Union européenne, il leur demande aussi de signer un traité par lequel l'Union européenne s'engagerait à ne jamais recréer de frontières physiques entre les deux Irlandes. Et c'est là où ça coince pour l'Union européenne, c'est que si jamais il y a un veto nord-irlandais d'appartenance à cette union douanière, qu'est-ce qui peut se passer ? Ce qui peut se passer, c'est qu'il y a des produits qui peuvent entrer en Irlande du Nord, plus de frontières avec l'Irlande, et donc se propager dans toute l'Europe. Ça va au-delà des produits, ça va aussi en termes des accords bilatéraux de libre-échange. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire comment le Royaume-Uni va se positionner par rapport à ça?
Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, Nathaniel. Pourtant, Boris Johnson a dit ça.
This is not an anti-European party. This is not an anti-European country. We are European. We love Europe. I love Europe anyway. I love it.
Si c'était pas vraiment très chaleureux la réception de ce commentaire, Boris Johnson aime l'Europe, il l'a dit haut et fort. On peut le croire ou pas? Qu'est-ce qu'on peut croire aujourd'hui de Boris Johnson?
Je pense qu'on peut croire, Christophe, que Boris Johnson est véritablement décidé à sortir de l'Union Européenne le 31 octobre. Alors, est-ce que c'est un signe d'amour, de haine ou d'indifférence vis-à-vis de l'Union Européenne? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, à l'heure où l'on enregistre, c'est que Boris Johnson, lui, est décidé de sortir de l'Union Européenne le 31 octobre. L'Union Européenne, ce qui est aussi sûr, n'est pas prête d'accepter un plan au rabais. C'est là où, en fait, on a cette zone de friction. C'est-à-dire que d'un côté, si vous voulez, il y a un acteur qui connaît l'issue à laquelle il veut arriver, mais qui essaie de forcer, par n'importe quel moyen, cette issue. Alors qu'en fait, d'une certaine façon, l'Union Européenne, elle continuera de fonctionner sans le Royaume-Uni et avec ce Brexit. Et encore une fois, il faut le rappeler, hein, pourquoi ce 31 octobre? C'est parce que le 1er novembre, il y a l'installation d'une nouvelle commission, un nouveau cycle au niveau des institutions européennes. Et puis, je crois un point sur lequel il faut aussi revenir, c'est que Boris Johnson, le Parlement britannique, lui, a voté en fait pour une extension du délai de négociation de 3 mois jusqu'en janvier 2020. Donc Boris Johnson, si vous voulez, et c'est une position qui est assez étrange, il veut fortement sortir de l'Union Européenne le 31 octobre. Par contre, il n'est pas prêt d'écouter ce que son propre Parlement a voté avant la prorogation, annulée finalement, Christophe, d'extension de délai jusqu'en janvier 2020. Donc on est dans une situation complètement ubuesque et insolvable à l'heure actuelle.
Et un Parlement qui a aussi voté qu'il ne peut pas y avoir ce Brexit sans accord. Point à la ligne. Il faut qu'il y ait un accord qui soit donné, alors qu'en fait, Boris Johnson continue à pousser cette ligne du no deal. Comment il va pouvoir sortir de cet imbroglio?
Mais en fait, ce qui va se passer certainement, et sans lire dans une boule de cristal, c'est que si rien n'est décidé d'ici au 31 octobre, il va pas. Alors évidemment, et on avait mentionné ce rapport, vous rappelez, hein, les risques de pénurie, les risques de séisme sur les marchés financiers, les risques de blocage dans les transports. Ça arrivera, et ça, je crois que les gestionnaires de crise, quels qu'ils soient, doivent l'anticiper. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si rien n'est décidé le 31 octobre, le 1er novembre, il n'y aura pas physiquement, si vous voulez, de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Donc en fait, si vous voulez, le no deal, c'est aussi un spectre qu'on agite, mais qui fait plus vraiment, enfin, qui fait peur, mais qui fait peur sur le papier. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il doit y avoir un accord, quel qu'il soit, quelles que soient les modalités de cet accord. Le problème, encore une fois, c'est que l'Union Européenne a l'impression que Boris Johnson se moque d'elle quand elle revient avec ce plan où, de toute façon, lui, son objectif, c'est de finalement satisfaire sa foule de fans et de supporters, leur dire, moi, le 31, parce que je vous l'avais promis, le 31, je sors. Mais de toute façon, Christophe, clairement, dans 3 semaines, le 31, si rien n'a été décidé, il n'y aura pas une sortie physique effective du Royaume-Uni. C'est bien ça le problème. Si vous voulez, le problème en termes de politique, c'est qu'on n'est pas à 2 jours près, mais il faut quand même donner un cadre. Et on l'a vu, hein, ces derniers mois, on a évolué sur la date limite, etc., sur le cadre, sur les notions d'extension. Le problème, c'est que, et je crois que c'est aussi un problème dans cette négociation de manière plus générale, c'est qu'en fait, plus personne n'est vraiment dupe de « c'est le cataclysme institutionnel, si vous ne sortez pas, bah, oui, ce sera problématique, mais dans les faits, le Royaume-Uni sera encore, appartiendra encore à l'Union Européenne si un accord n'est pas trouvé. » Ce qu'il faut trouver, c'est de se dire, ce qu'il faut essayer de se dire, c'est que et Boris Johnson et l'Union Européenne doivent se mettre d'accord pour que l'un et l'autre soient satisfaits de l'accord de mise en œuvre du Brexit. C'est ça l'issue maintenant.
Mais on est d'accord que Boris Johnson aussi et son parti agitent un peu le drapeau de tout ce qu'il peut y avoir au terme de menaces avec des gens qui descendent dans la rue, des échauffourées, etc. Mais ça reste un problème très local britannique. Je ne pense pas qu'il y ait des échauffourées en France ou en Allemagne parce que le Royaume-Uni est toujours dans l'Europe. Donc il y a quand même cette peur qui est insinueuse dans le pays. Et est-ce que ça peut vraiment créer une dynamique au niveau britannique ou pas?
Vous l'aviez mentionné, je crois, Christophe, dans une des précédentes émissions, c'est il y a eu des émeutes hein, même à Londres. Donc oui, effectivement, je ne parlerai pas de guerre civile, mais il y aura certainement, oui, des mouvements de foule, des échauffourées, et puis des mouvements divers, j'allais dire, au Royaume-Uni. Mais si vous voulez, c'est ongoing, c'est un processus qui est continu. Ça fait des mois, en fait, que des banques britanniques, par exemple, se délocalisent et vont à Francfort, Amsterdam, Paris, Berlin. Donc le mouvement, il a déjà commencé. C'est pour ça que, et c'est là où c'est dangereux, c'est que Boris Johnson, il agite le chiffon rouge, il agite le couperet du 31 octobre pour faire pression sur l'Union européenne. Mais Michel Barnier, Guy Verhofstadt, ils savent très bien que la Terre ne va pas s'arrêter de tourner le 31 octobre. Mais eux, ils veulent se focaliser sur la nouvelle mandature des institutions européennes. Et le problème, c'est qu'en fait, Boris Johnson, c'est un peu démagogique. C'est-à-dire qu'il joue avec cette date couperet du 31 octobre. Maintenant, encore une fois, c'est du billard à trois bandes, parce que si le 31 octobre, il y a un séisme sur les marchés financiers, s'il y a un équivalent de ce qui s'était passé avec les subprimes aux États-Unis sur des fonds de pension, sur des retraites d'épargnants britanniques, évidemment, ça va créer des choses. Mais vous l'avez dit à très juste titre, ça va créer des remous et des mouvements en Grande-Bretagne, pas en Europe. C'est plutôt un appel d'air, ce qui va se passer. C'est que vous allez avoir des entreprises qui vont se délocaliser, si vous allez avoir des recrutements, si vous allez avoir des opportunités de side business et de développement commerciaux annexes, mais les risques, ils sont vraiment... Alors, il y a les risques quand même bilatéraux, j'allais dire, on en avait parlé la dernière fois, entre par exemple le Calais et l'Angleterre. Oui, bah oui, il y aura des risques de blocage de marchandises, etc. Mais ce sera infinitésimal en France, par exemple, comparé à ce qui peut se passer au Royaume-Uni. Moi, je crois, malheureusement, et c'est là où ça devient très machiavélique, c'est que Boris Johnson, il mise aussi tout sur ce backstop et sur cette frontière nord-irlandaise parce que c'est symbolique. Parce que effectivement, rétablir une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, oui, là, ça appelle plus que simplement cet épisode du Brexit, mais ça appelle des mauvais souvenirs et des heures très sombres pour le Royaume-Uni. Donc, je crois que c'est là aussi où ça devient à la fois dangereux et pernicieux, c'est que on agite cette frontière nord-irlandaise, on y met beaucoup d'affect pour trouver des solutions institutionnelles qu'on n'arrive pas à trouver dans le cadre plus global du Brexit.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Merci Nathan.
Merci Christophe.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.